Bonjour à tous. On va commencer sous le froid polaire de Lyon, quand on est tous arrivés. J'espère que ça va s'arranger, parce que... Voilà, allez, Franck Debout et Michel Lussault, vous allez introduire cette session ce matin à deux voix. Après, ce sera au tour de Michel Lussault, Lionel Collet et Jean Doré, c'est ça. Et nous aurons le plaisir d'entendre Clara Danon, qui représente un ministère. Est-ce que j'ai bien dit dans l'ordre ou... Oui. Qui fera la conclusion de cette introduction. Comment on procède? Allez. Là. Micro.
C'est bon, vous m'entendez très bien. Mesdames, messieurs, chers collègues, bonjour à tous. Il y a ce matin une ambiance d'amphithéâtre pour le premier cours du semestre. Vous savez, lorsque les géographes, je suis géographe, accueillent les étudiants d'histoire de première année pour un cours de géographie humaine. Cette sorte d'ambiance intermédiaire, où on ne sait pas trop ce qu'on fait là, mais on se dit qu'on va bien finir par le comprendre dans les minutes qui suivent. Nous allons donc essayer de donner du sens à cette présence pour ce quatrième CUN que je suis très honoré d'accueillir en tant que président de l'Université de Lyon, donc ce établissement public de coopération scientifique qui regroupe les quatre universités et 15 écoles et instituts du site de Lyon et Saint-Étienne. Nous avons voulu, il y a déjà maintenant plus de 2 ans, accueillir un CUN parce que nous estimons que la question du numérique est évidemment fondamentale pour l'avenir de notre site d'enseignement supérieur et de recherche. Et je crois qu'il en sera question à travers les débats de ces prochaines journées, lorsque des Lyonnais viendront exposer un certain nombre de démarches qui sont les leurs, parfois depuis très longtemps, comme ce qui se fait depuis longtemps à l'Université Claude-Bernard Lyon 1, dont je salue un des anciens présidents, Lionel Collet, qui a beaucoup contribué à l'organisation de ce CUN et qui a aussi été président il y a peu de la conférence des présidents d'université. Lyon a développé depuis longtemps maintenant, à l'initiative d'ailleurs d'un de tes prédécesseurs, Lionel, c'était Domitien de Bouzy, que tous ceux qui ont travaillé avec lui se souviennent toujours avec émotion, en particulier à Lyon, une plateforme d'enseignement tout à fait remarquable qui s'appelle Spirale, que nous avons décidé de faire un de nos outils communs à l'échelle du site, et c'est ce genre... d'activité qui nous a poussé à considérer que nous devrions accueillir le CUN, qui s'est imposé comme une manifestation importante pour tous ceux qui estiment que le numérique est susceptible non seulement d'améliorer les pratiques de formation, mais bien plutôt de changer les pratiques de formation et donc de contribuer aussi à la réorganisation d'ensemble de notre système d'enseignement supérieur et de recherche, une réorganisation que nous pensons pour la plupart tous nécessaire. Mais en voulant accueillir le CUN, nous avons voulu aussi faire en sorte que ils s'inscrivent dans une perspective plus large, puisque nous avons décidé de coupler ce congrès avec un autre, le congrès 3W 2012, donc qui est le congrès mondial du web, qui est à la fois un congrès scientifique, mais aussi un congrès s'appuyant sur de nombreux ateliers de formation et de présentation d'un certain nombre d'innovations liées au web. C'est en même temps le plus grand congrès scientifique, le plus réputé des congrès scientifiques des spécialistes du web. Et ce congrès commence aujourd'hui par la partie atelier de formation et aura une partie plus officielle à partir de mercredi, dans ce même lieu, plus exactement dans le grand amphithéâtre de 3000 places qui se situe à quelques dizaines de mètres d'ici. Et ce couplage du CUN et du 3W 2012 est pour nous très important, puisqu'il permet de réunir pendant 5 jours plus de 2000 personnes spécialistes des questions numériques et du web. Et je crois que c'est une opportunité aussi assez rare pour dynamiser des échanges que nous estimons nécessaires. Et nous avons adjoint à ces deux événements un salon du numérique qui se situe également ici, salon du numérique qui permettra à des entreprises, en particulier de jeunes entreprises, mais il y a aussi quelques majors du champ, un salon du numérique qui permettra à des entreprises de se présenter et de trouver les contacts qui sont nécessaires. Il s'agit pour nous d'affirmer la place de Lyon et de Saint-Étienne dans les réflexions sur le numérique et le web. Nous envisageons donc de créer un label Lyon, capitale du web, qui nous permettrait dans les années qui viennent à la fois de mettre en avant notre compétence scientifique, nos compétences de formation, mais aussi nos compétences de transfert, que ce soit le transfert vers les activités pédagogiques et de formation ou le transfert vers d'autres activités qui peuvent passer par la création d'entreprises. Il s'agit donc pour nous ce matin de bien montrer que ces quelques jours qui vont suivre ne sont pas du tout anecdotiques, mais constituent pour le site de Lyon et de Saint-Étienne, pour l'agglomération du Grand Lyon qui nous a considérablement soutenus, pour la région Rhône-Alpes qui est également un des partenaires de ces journées. Il s'agit pour notre site de montrer qu'il y a là désormais un lieu où l'on peut compter si l'on s'intéresse à ces questions. Alors j'espère que votre travail sera fructueux. Comme on le disait tout à l'heure, c'est très rarement à ceux qui sont présents dès le lundi matin à ce genre d'événement qu'il faut faire la morale sur l'importance d'un thème, puisque vous êtes là justement pour manifester cette importance. J'espère que le temps évidemment sera meilleur. Pour ceux qui de temps en temps décrocheraient un peu de ces 3 jours, je vous signale que nous sommes à quelques encablures du parc de la Tête d'Or, un des plus beaux parcs urbains d'Europe, pour ceux que ça intéresse. Il y a même désormais des girafes en liberté dans un parc africain qui n'a pas exactement la température qui convient, mais qui est très bien aménagée. Et puis pour ceux qui auraient quelques instants à perdre avant de reprendre leur train, je vous signale qu'il y a également au Musée d'art contemporain une formidable exposition Robert Combas, puisque pour être des spécialistes du numérique, il n'est pas nécessaire de considérer qu'il faille pour cela ne pas aimer l'art. Il y a une très belle exposition visitable en 1h30 à 2h pour ceux qui auraient quelques temps de libre. Merci à tous de votre présence et bon courage pour ces 3 jours.
Je demande au directeur de Centrale de prendre la parole maintenant. Alors, la contrainte, c'est de parler bien dans le micro.
Pardon.
D'accord. De se rapprocher quasi le plus possible.
Oui, bonjour à tous. Je n'aurai pas le talent de Michel Lussault de réussir à placer la girafe dans le parc de la Tête d'Or. Et je reconnais un très grand talent à notre président du presse. Et je le remercie d'avoir fait cette magnifique introduction. D'abord, l'Université du numérique. Pourquoi l'École centrale de Lyon ? L'École centrale de Lyon est membre du presse. On est un petit apporteur, quelque part, de l'enseignement supérieur à Lyon. Et on est très fiers d'avoir été à l'origine de la candidature de Lyon pour le World Wide, le WW 2012 à Lyon. Et ensuite, quand il s'agit de l'Université de Lyon à proposer donc de tenir cette conférence sur l'enseignement à l'ère du numérique, de rapprocher ces deux événements a semblé très intéressant donc à Lyon. Et on remercie donc le presse et Michel Dussault d'avoir été extrêmement moteur et dynamique. Et l'École centrale de Lyon a été un des petits acteurs du système. Alors, l'enseignement du numérique, j'ai eu le plaisir de faire à l'École centrale de Lyon, je suis entré en 1975, et l'ère du numérique, c'était tout simplement l'abandon de l'épreuve de calcul numérique. Il n'y a plus d'épreuve de calcul de numérique, aussi souvent que ça puisse paraître, dans les écoles d'ingénieurs. Grâce au numérique, il n'y a plus d'épreuve de calcul numérique. Ça, il y a plein de paradoxes dans le numérique. L'École centrale de Lyon, on est très fiers de contribuer également aux presses, hein, puisqu'on a eu des LabEx, des Equipex, et puis tout récemment un IDEFI. Et de ce financement de l'enseignement, IDEFI, une nouvelle mode de création donc pour nous, l'École centrale de Lyon et l'EM Lyon, surtout donc porté à nous deux, donc un nouveau Master of Science en IDEA, donc, et dans lequel il y aura un Learning Lab. Donc je vous invite dans quelques mois à venir nous retrouver sur le site d'Écully, hein, dans lequel on devrait avoir un laboratoire sur les nouvelles technologies d'enseignement. Et on compte beaucoup hein, sur cet outil au service du développement des nouvelles technologies de l'enseignement. Enseignement, enseignant, à la fois l'apprenant hein, et à la fois l'instructeur, donc le débat de l'enseignement à travers le numérique, il y a bien les deux aspects, il y a l'aspect enseignant et l'aspect enseigné, hein, les deux parties doivent se retrouver autour de la même plateforme. Alors, merci également pour l'École centrale de Lyon à deux acteurs, Luc Mario et Jean-Pierre Berthet. Et ce que je peux dire, c'est que tous ces deux acteurs d'École centrale de Lyon qui ont contribué à construire ce web, qu'à chaque fois qu'ils m'ont parlé de cet événement, ils avaient des étoiles dans les yeux. Hein, et j'espère que vous aurez des étoiles dans les yeux pendant toute cette conférence. Et que quelque part, cet enthousiasme qui est absolument apporté par tout le développement du numérique est absolument étonnant. J'ai eu un parcours avant de rejoindre l'École centrale de Lyon, un parcours récent d'aviateur, puisque j'étais chez Air France pendant plusieurs années. Et la simulation, l'enseignement par l'ordinateur au niveau du pilotage est quelque chose de très ancien, puisqu'en 1969, quand André Turcat me rappelait, donc André Turcat est le premier pilote à avoir décollé Concorde, donc en 69, quand il est descendu de l'avion, si vous recherchez sur Internet, vous devrez peut-être le retrouver grâce au numérique, l'interview d'André Turcat descendant les marches du Concorde, la première fois qu'il a décollé cette machine étonnante, hein, une machine que personne ne connaissait, une machine énorme, hein, 100 passagers, alors que les avions militaires, les avions étaient pour un ou deux. et cette fois-ci un énorme machine, et quand il est descendu de l'avion, il a dit, bah, écoutez, l'avion se comporte comme au simulateur. Ah, donc c'est extraordinaire de penser que dès 69, ce sont les équations mathématiques qui ont permis de faire le simulateur et de découvrir le comportement de l'avion avant même que cet avion ait fait son premier vol. Ensuite, j'ai emmené un de mes jeunes filleuls, 7 ans, à bord de mon petit avion, et je lui passe les commandes en plein vol, c'était il y a quelques mois, et il, vous savez, il est tout petit, il ne voit même pas dehors, il regardait uniquement le tableau de bord, et je lui passe le manche. Vous savez, quand on passe le manche à quelqu'un qui n'a jamais piloté l'avion, eh bien, l'avion fait monte des 100, va à droite, va à gauche. Hein, donc l'important, c'est de suivre, vous, en tant que commandant de bord, de suivre ce qui se passe et de prendre la main. Et il tient l'avion magnifiquement comme il faut, stable, aussi bien en cap qu'en altitude. Et alors je me tourne vers lui, mais comment tu as pris ça? Il lève les épaules, il dit, bah, Flight Simulator. Et je pense que l'enseignement est extraordinaire et ça n'enlève pas des problèmes de fond. J'ai discuté avec mes homologues allemands. Hein, faire le cochon pendu est aussi important que le Flight Simulator, hein, d'avoir la notion de l'air, hein, ou le lâcher. La première fois où on pilote tout seul, ce sont bien des éléments importants, non numériques, qui sont en complément du numérique ou le numérique en complément des choses physiques. Et je pense que c'est très important de bien équilibrer les deux et c'est pour ça que cette rencontre a lieu aujourd'hui physiquement et que vous n'avez pas souhaité faire cette conférence sur le web. Vous aurez très bien pu faire cette énorme conférence tout simplement, confortablement assis dans votre fauteuil, dans vos chaumières, et vous avez souhaité vous rencontrer ici à Lyon. C'est très intéressant, c'est que le numérique n'empêche pas l'importance de la rencontre. Et cette rencontre est un complément important, et j'espère que mercredi soir, quand vous repartirez, il y aura eu un avant et un après. Hein, la rencontre, c'est pas quand on croise quelqu'un dans l'ascenseur ou qu'on le croise sur le web ou à travers les mails, c'est quand on a un peu changé la donne, changé son regard par rapport au monde, et ces conférences physiques dans lesquelles on se rencontre sont des moments absolument étonnants, internationaux, puisque j'espère que c'est bien le I, hein, de votre sigle de CIUN, hein, le côté international est effectivement aujourd'hui présent à Lyon. Il n'y a pas de numérique hexagonal, bien sûr, du numérique, une notion internationale. Alors, cette conférence, trois petits mots pour terminer. Je pense qu'il est très important, quand on contribue à faire évoluer les techniques, hein, d'avoir du rêve. Et je pense qu'il faut rêver au cours de ces trois jours. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus, essayer d'imaginer le futur. Et ça, c'est très compliqué. Et ça ne peut se faire que si on a une part de rêve. Hein, le rêve est accessible. Si vous relisez ce qui existait il y a déjà 10 ans, je relisais ce matin le numéro de la recherche consacrée à l'ère du numérique, hein, donc le numéro de la recherche d'il y a 10 ans, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et des choses qui ont été faites, des choses qui n'ont pas été faites. On était aussi beaucoup plus loin, hein, que ce qu'on avait pu imaginer il y a 10 ans. Ensuite, il faut capitaliser sur ce qui a été fait, hein, les différentes expériences qu'on peut avoir dans toutes les universités et les écoles sont des expériences extrêmement enrichissantes et qu'il faut absolument partager. Et ça, c'est le troisième message. On ne peut pas évoluer que s'il n'y a pas une notion de partage. Alors, je vous souhaite, hein, d'avoir des étoiles dans les yeux, donc, demain soir, et l'enthousiasme, une qualité extrêmement importante, hein, pour tous les enseignants et étudiants. Ces étoiles, on les retrouve, hein, donc, dans les bancs, hein, dans nos bancs de nos amphis, et on les retrouve également, hein, dans les classes des professeurs. Ce qui est important, hein, c'est de souhaiter d'avancer et qui est toujours un avant et un après. Bonne conférence à tous.
Merci, on vous applaudit. Avant de passer la parole, je note que vous passez le manche à votre filleule de 7 ans, donc je ne suis pas sûr de prendre l'avion avec vous un jour quand même. Bien, allez, on enchaîne. Marqué avec le numérique, tout est possible. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Lionel Collet et Jean Doré. Lionel Collet pour commencer.
Bien. Mesdames et messieurs, d'abord merci d'avoir rejoint Lyon, merci aux organisateurs et à tous ceux qui ont permis et qui permettront le succès de ces journées. J'étais, comme beaucoup d'entre vous, déjà en 2006 à la Villette, lors du premier colloque, et je ne peux que constater avec plaisir que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Strasbourg ou cette année à Lyon, le développement et le succès de ce colloque, qui est vécu par chacune et chacun comme un lieu privilégié à la fois d'information et à la fois d'échange. Il se trouve que nous co-présidons le conseil scientifique avec Jean Doré, qui aura la parole dans quelques instants. Alors d'abord, pourquoi nous? Parce que nous sommes deux anciens présidents ou directeurs d'école du site et que pour des raisons de susceptibilité, il est toujours préférable de prendre des anciens à des actuels. Et puis il y a une seconde raison, c'est que nous avons l'un et l'autre présidé, l'un la CPU, l'autre la CDFI, c'est-à-dire les deux grandes conférences inscrites au Code de l'éducation, qui sont les conférences représentant les responsables des établissements d'enseignement supérieur. Ce qui montre que le débat qui sera le nôtre n'est pas dans un débat duel université-école. Nous sommes dans le numérique pour l'enseignement supérieur français, qui est un enseignement par définition unifié. Quels que soient nos établissements se sont emparés de l'outil du numérique. Ils s'en sont emparés dans la pédagogie, bien évidemment, et nous le voyons dans le programme de ces trois journées, qu'il s'agisse de la formation initiale ou de la formation tout au long de la vie. Ils s'en sont emparés également au travers de nos enseignants, qui s'en sont appropriés ou s'approprient actuellement cet outil dans leur offre, l'organisation de la pédagogie, dans leurs innovations pédagogiques. Nos établissements l'utilisent de plus en plus et le développent dans ses fonctions support, dans ses fonctions de soutien. C'est un outil essentiel pour notre ouverture à des publics spécifiques, parce que la question de l'égalité des chances reste une question posée dans l'enseignement supérieur. Nous savons que le numérique est un élément de la réponse. Et puis, bien évidemment, c'est un outil de notre politique d'attractivité, qu'elle soit nationale ou internationale, de nos établissements. Mais ce qu'on a découvert en plus, c'est que depuis quelques années, elle sert aussi de lien sur un site entre les établissements. Pour avoir des projets communs, pour avoir des outils communs, pour avoir une politique commune, et quelquefois plus encore, pour les rapprocher au travers de nouveaux établissements sur un site. Alors, il se trouve qu'en 2009, la conférence des présidents d'université avec la Caisse des dépôts et consignations avait réalisé un guide, le guide méthodologique de l'université numérique. Et je cite, ce guide à l'époque insistait sur la nécessité pour l'université d'adopter une stratégie numérique, ce qui aujourd'hui est un fait absolument acquis, mais il faut rappeler que cette nécessité reste aujourd'hui d'actualité. Actualité pour améliorer la performance de nos établissements. Et quand on parle de la performance, c'est d'abord celle de nos missions régaliennes. La formation, plus grande réussite, meilleure formation de nos étudiants et nos élèves. La recherche, aide à la production de connaissances, facilitation de cette dernière. Nous avons besoin de cet outil pour améliorer l'efficience de nos établissements. C'est un outil, d'autant plus que nous sommes dans des budgets contraints actuellement. Dans un contexte budgétaire contraint et qui n'a pas de raison, malheureusement, de ne pas le rester encore pendant quelques années. Nous avons besoin de cet outil aussi pour améliorer l'attractivité de nos établissements. Alors, en 2010, lors des conclusions du colloque de Strasbourg, Jacques Fontani, vice-président de la CPU, est intervenu et avait souligné, je cite, que s'il n'y a pas de modèle unique de développement et de pilotage dans les universités qui réussissent leur politique numérique, il y a au moins un dénominateur commun fort évident, c'est l'existence d'un pilotage en mode projet. Des schémas directeurs qui recensent et analysent les besoins et tracent des perspectives pour les satisfaire, des stratégies qui fixent des objectifs et des cibles, ainsi que des actions pour les atteindre. Et il ajoutait que le changement à conduire n'était pas de nature managériale. Il ne sert à rien de programmer une stratégie de développement des outils numériques si leur usage n'est pas placé au cœur des formations diplômantes. Le numérique doit certes être intégré dans les politiques universitaires, mais d'abord intégré intimement dans les cursus de formation, et cela implique une refondation des pratiques de la pédagogie universitaire. Voilà les propos de conclusion que tenait Jacques Fontani. Alors, chacun sait à quel point nous sommes attachés en France au service public, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, et que nos établissements sont établissements du service public. Nous savons également que depuis 2010, il y a une mission dédiée au numérique au ministère de l'enseignement supérieur, et que sa responsable, Madame Clara Danon, prendra la parole dans quelques temps à cette tribune. Aujourd'hui, nous sommes d'accord pour reconnaître que l'État doit jouer son rôle stratège et que cet État stratège doit fixer des objectifs globaux, bien évidemment, pour l'université, mais puisque nous sommes ici à ce colloque, doit aussi fixer des objectifs pour l'utilisation universitaire du numérique, la place du numérique dans nos établissements. Ça veut dire que cet État stratège doit permettre actuellement, dans une logique d'accompagnement d'établissements qui sont des établissements autonomes, de prévoir dans les contrats quinquennaux entre l'État et l'établissement non seulement un volet numérique, mais également des moyens dédiés significatifs. Alors, ce qui est vrai pour l'ensemble des rôles que l'État doit jouer pour l'enseignement supérieur, c'est que cet État ne doit pas se réduire à un financement sur un mode d'un algorithme et de quelques appels à projets. Il est indispensable actuellement que le ministère refonde le contrat entre lui-même et les établissements, le refonder dans ses missions pour accompagner nos établissements et reprendre la place d'un État stratège, et également le refonder dans ses moyens pour qu'on retrouve enfin un contrat significatif d'accompagnement. Mais ce ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant si un signal n'est pas donné pour mieux reconnaître les investissements pédagogiques des enseignants, et notamment leur prise en compte dans les promotions universitaires. Et un autre signal doit être donné. Il n'est pas que symbolique. C'est sur les missions des trois conseils mis en place par la loi LRU, conseil d'administration, conseil scientifique et CEVU, dans lequel une hiérarchie apparaît. N'oublions pas que par la loi, le président de l'université préside les trois conseils. Mais il n'est membre que du conseil d'administration et du conseil scientifique. Il ne vote pas pour les décisions du conseil des études et de la vie universitaire. Et il s'agit d'une réelle déconsidération au-delà du CEVU. C'est une déconsidération des activités pédagogiques et elle devra être corrigée par la loi. Mais cela est une autre histoire. Bon colloque.
Merci. Après tout, c'est aussi l'occasion de faire passer des messages, puisque la période est propice, si je ne m'abuse, aux messages. Bien. Jean Doré, alors vous, c'est une expérience unique. On s'était croisé au colloque de ACDFI, je ne sais pas si vous vous souvenez, et vous nous aviez parlé de Centrale Pékin. Bon, là, vous êtes revenu hein, chez nous. Donc, depuis deux mois déjà, et c'était bien, cette expérience chinoise.
Ah, c'est certainement la plus belle expérience professionnelle de ma vie, oui.
Bon, parfait. Et pardonnez-nous, hein, on parle un peu de... Mais c'est intéressant parce que, eux, sur le plan du numérique, ils vont vite. Allez, je vous passe la parole.
Ah, ils vont vite, mais ils viennent de loin. Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents. Michel Lussault faisait le parallèle avec le premier amphi de géographie pour les jeunes historiens. Je dirais que cette matinée me rappelle les cours du lundi matin où l'amphithéâtre se remplit progressivement et plutôt par les rangs du fond. Je vous assure que les places devant sont bonnes aussi. En tout cas, merci d'autant plus à ceux qui sont déjà là et depuis le début. Alors, l'histoire du numérique, en tout cas dans l'enseignement supérieur, est une histoire relativement récente. Franck de Boupe signalait tout à l'heure que ça commençait déjà à être une vieille histoire dans le monde de l'aéronautique. Dans celui d'où je viens historiquement, qui est celui du nucléaire, c'est aussi une histoire relativement ancienne. Et sans doute, le développement de ces technologies, de ces outils dans ces mondes-là, celui de l'aéronautique et celui du nucléaire, est-il lié d'une part aux problèmes spécifiques de sécurité qu'ils ont à gérer, et puis d'autre part aux possibilités de déploiement de moyens qui sont les leurs. Mais en tout cas, ce monde foisonne, c'est absolument extraordinaire. Nous sommes dans un écosystème d'une biodiversité florissante, et ça part dans tous les sens, il y a des quantités d'initiatives qui sont prises, et je voudrais dire que ça c'est quelque chose d'absolument passionnant, parce que chaque jour, de nouvelles idées apparaissent, chaque jour, de nouveaux projets se lancent, et c'est une phase extrêmement riche, extrêmement vitale d'un processus qui va progressivement décanter, parce qu'il y a des contraintes, parce que de même que la vie s'est développée à l'intérieur de conditions de température et de pression données, eh bien il y a aussi pour le numérique des conditions qui vont permettre à certaines technologies de se développer, à d'autres ne le permettront pas. Mais toujours est-il que nous sommes à une époque absolument fascinante parce que nous sommes dans la partie la plus bouillonnante de l'histoire. Ça veut dire aussi qu'il est indispensable que périodiquement nous échangions et que nous fassions le point sur l'état de l'art. Parce que, et cela a été souligné déjà, il est fondamental que nous partagions nos expériences, que nous nous enrichissions. Il y a un slogan d'une immense sagesse que je reprends souvent à mon compte, qui est « le travail des autres ne doit pas nous faire peur ». Alors, M. Azoulay rappelait ma récente expérience chinoise. Effectivement, j'ai pu, au cours des 5 années et demie passées à l'école centrale de Pékin, j'ai pu faire l'expérience de la puissance des technologies numériques. Que ce soit lorsque des étudiants de l'école centrale de Lyon et des étudiants de l'école centrale de Pékin menaient ensemble pendant plusieurs mois un projet commun, par exemple de conception et de réalisation d'un petit avion sans pilote, avec des professeurs français, des professeurs chinois, et les uns à Lyon, les autres à Pékin. J'ai pu voir combien l'utilisation d'une plateforme pédagogique permettait, et d'outils complémentaires, permettait à des étudiants et des enseignants distants de 8000 km de maintenir un contact, d'assurer un tutorat, indépendamment de cette distance et en tenant compte aussi d'un décalage horaire de 7 heures en hiver et 6 heures en été. On a pu, et on continue, mettre en œuvre des projets de CAO, de conception assistée par ordinateur, avec des étudiants à Pékin, des professeurs à Pékin et à Paris, et des experts au CERN à Genève et au Japon. Et dans une salle, chacun, dans son site, dans une salle, tout le monde travaillait de manière collaborative sur le même objet, sur le même dessin, les étudiants pouvant interpeller les experts en tant que de besoin et travaillant sous le pilotage de leurs enseignants. Donc on voit la richesse et les possibilités d'économie d'ailleurs, parce que ça fait un certain nombre de billets d'avion qui sont économisés. On voit la richesse de ces technologies, on voit tout ce qu'elles peuvent apporter, sans compter naturellement toutes les simulations qui représentent des situations qu'il ne serait pas raisonnable de vouloir faire dans le réel. J'ai également, et ça sera ma conclusion, le sentiment que, en globalisant ainsi les échanges entre les enseignants, les apprenants, au travers de ces outils, nous faisons œuvre de démocratie. Parce que dans ce type d'échange, c'est toujours la parole libre qui l'emportera sur la parole serve. Merci.
Bien, merci. Je passe la parole à Clara Danon, responsable de la mine, mission numérique pour l'enseignement supérieur. La démocratie en Chine, ça a du sens. Hein. C'est vrai que si ça peut faire avancer ce combat, bah, tant mieux après tout. C'est à vous.
Bien, écoutez, bonjour à tous. Je voudrais d'abord excuser Monsieur Mukeli, directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, qui ne peut pas être présent ce matin. J'ai donc l'honneur de le représenter en tant que responsable de la mission du numérique pour l'enseignement supérieur au sein de la DGCIP et pour cette quatrième édition du CIEN. Alors, le CIEN, colloque international de l'université à l'ère du numérique. Depuis 2006, de la continuité, mais aussi beaucoup d'évolution, et pour l'international, et pour l'université, et pour le numérique. L'international, vous le savez, le contexte de compétition entre les établissements, entre les pays, avec des organismes industriels qui rentrent dans le champ de la formation. Donc ce contexte s'est exacerbé et le numérique est à la fois un élément de cette compétition dans la mesure où il apporte de la visibilité et où il introduit un autre rapport à la distance. Et puis en même temps, c'est un atout pour les établissements, c'est un atout pour les formations, pour se rendre visible et pour rayonner. Une évolution du paysage universitaire, d'autres en parleraient mieux que moi, vous le savez donc depuis 2006, avec la loi LRU, l'autonomie des établissements, la recomposition du paysage universitaire, des alliances et des regroupements en tout genre, des fusions au niveau régional, au niveau local et régional, beaucoup d'évolutions. Et là encore, Monsieur Lionel Collet l'a évoqué, le numérique est un élément, enfin peut-être un élément positif pour cette recomposition en essayant de faciliter les synergies, les mises en commun de compétences et de moyens, et avec de nouveaux enjeux autour de systèmes d'information cohérents ou de cartes des formations cohérentes. Le numérique lui-même a évolué, si je puis dire, depuis 2006. Certes, il y a une continuité dans les thèmes, mais on voit d'autres choses émerger. On est beaucoup plus aujourd'hui sur tout ce qui concerne la mobilité au sens très large, de populations qui sont nomades, de choses qui sont d'articulation entre la présence et la distance, de nomadisme pour les services comme pour la formation. On a parlé de formation à l'étranger. Aujourd'hui, les étudiants sont en alternance, partent à l'étranger, souhaitent être en relation avec leur maison mère. Encore une fois, d'autres sujets qui émergent, comme les réseaux sociaux, beaucoup de choses sur les jeux sérieux, comme le cloud computing. Donc, les CUN se suivent, mais ne sont pas forcés de se ressembler à la fois dans leur façon de traiter les choses et dans leur contenu. Dans ce paysage, comment peut se situer le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche face à des établissements autonomes qui sont maîtres de leur stratégie et de leurs actions en matière de numérique? Nous le voyons, 5 rôles autour de... du maintien d'une forme de cohérence nationale au service des établissements, de l'accompagnement des différents acteurs, du soutien aux échanges et à la mutualisation, du soutien à l'innovation et de l'aide au positionnement et au rayonnement de la France à l'international. Je donnerai quelques exemples d'actions au titre de l'année 2011 pour illustrer ces différents modes d'action. Mon ordinateur ne fonctionne plus, je vais improviser. En ce qui concerne la cohérence, donc il ne s'agit évidemment pas de faire en sorte que tout le monde fasse la même chose, mais pour donner de la force, de l'impact, surtout dans le domaine du numérique, il y a des questions d'interopérabilité, de possibilité d'échange, de visibilité et de qualité. Et donc, je citerai 3 actions. D'abord, le fait que nous avons proposé aux établissements et établi avec eux un système d'indicateurs communs en matière de stratégie et d'usage du numérique, à la fois dans une démarche d'auto-évaluation pour les établissements et pour un appui au dialogue contractuel. Ces indicateurs ont été plutôt bien reçu par les établissements en tant justement qu'outil d'évaluation et de pilotage. Dans les années qui viennent, ils vont continuer d'être utilisés dans le cadre de la contractualisation. Et c'est un outil qui permet, c'est un outil commun établi avec eux qui permet aux établissements à la fois de se situer, de travailler en leur sein et puis de travailler avec nous, notamment dans le cadre de la contractualisation. Un autre exemple, ce que nous essayons de faire sur le portfolio numérique de compétences et d'expériences. C'est un nouvel enjeu, notamment avec le développement de la formation par compétences, autour des compétences, comme dans la nouvelle licence, et avec tous les enjeux nouveaux portés autour de l'insertion professionnelle. Donc, il y a beaucoup d'expérimentation dans les établissements. Nous avons essayé, là encore, de travailler avec eux pour essayer d'établir un livre blanc et un cahier des charges minimal pour que chaque établissement puisse établir son outil. Mais c'est un outil qui doit servir à la mobilité des étudiants. Donc, il est important que chacun ne produise pas quelque chose dans son coin qui soit complètement inutilisable pour des étudiants qui vont aller d'établissement en établissement ou partir à l'étranger. Bien sûr, tout ça est fait en relation avec les normes internationales. Troisième exemple, ce que nous avons essayé de faire autour du guide de la production des ressources numériques par les enseignants. Là encore, à la fois pour essayer de faciliter la tâche aux enseignants et aux établissements et afin qu'il y ait une certaine homogénéité, notamment dans les normes de description et dans les outils de production, pour que ces ressources aient une plus grande utilisation, une plus grande visibilité, et donc à la fois au service de chaque établissement et enseignant, et de l'ensemble. Donc, ça c'est autour de la cohérence nationale. Sur l'accompagnement, vous l'avez dit, nous essayons d'apporter aux établissements, par exemple dans le cadre de la procédure contractuelle, une certaine forme d'expertise dans le domaine du numérique, et puis bien d'autres formes d'accompagnement autour soit du service, soit de la formation. Autour du soutien à la mutualisation et aux échanges. Vous savez que depuis un certain nombre d'années, le ministère s'appuie sur des structures comme les universités numériques en région et les universités numériques thématiques. Au départ, ces universités numériques en région étaient plutôt donc au niveau régional et sur les infrastructures et les services et l'accompagnement des usagers. Et puis les universités numériques thématiques sur la mutualisation sur des grands champs disciplinaires. Aujourd'hui, donc, nous continuons à travailler avec ces structures qui aident les établissements à mettre en commun donc compétences et moyens. En ce qui concerne les UNR, dans ce paysage justement régional qui bouge beaucoup, on peut se demander comment est-ce qu'elles se positionnent. Tout ce qu'on peut constater, c'est que pour le moment, elles ont leur utilité et elles restent un outil privilégié de discussion au niveau régional ou interrégional sur le numérique. Leur travail évolue plutôt vers les services et donc vers les nouveaux services. Et on voit qu'il y a une mutualisation entre établissements, à l'intérieur civière, en inter-établissements sur un certain nombre de projets, et puis au niveau national sur d'autres, par exemple autour de l'antiplagiat. Il y a un travail commun qui a été fait par tous les UNR. Il y aura plusieurs présentations sur tout cela, à la fois sur l'Agora ou sur l'espace UNR, UNT, ministère, etc. Et puis, bien entendu, au cours des sessions qui seront présentées pendant ces journées. En ce qui concerne les UNT, nous avons souhaité faire un bilan pour voir effectivement comment est-ce qu'elles étaient utilisées et puis comment est-ce qu'elles pouvaient évoluer en fonction de l'évolution du contexte, puisque aujourd'hui le contexte de production des ressources dans les établissements a changé, et nous avons souhaité les repositionner de façon plus large autour, comme pôle d'animation autour de la ressource pédagogique numérique dans les établissements. Le service, c'est en fait en amont et en aval de la production, c'est-à-dire aider les établissements dans leur politique de gestion des ressources numériques, donc à la fois de production, d'accessibilité, d'indexation. Et puis, je dirais, en aval, comment est-ce qu'on utilise ces ressources, à la fois pour la pédagogie, pour la formation à distance, parce que donc les choses étaient un peu séparées. Et puis, pour une visibilité de la France à l'international, parce que c'est quand même un patrimoine pédagogique libre d'accès qui est assez exceptionnel. On le voit à l'international, donc il faut l'utiliser mieux pour rendre visibles nos formations. Sur la mutualisation, je dirais aussi que nous essayons de faire des choses autour de la pédagogie elle-même, appuyée sur le numérique, avec un certain nombre de manifestations que vous connaissez au niveau régional, au niveau national, sur la pédagogie numérique et sur l'accompagnement des enseignants, puisque c'est un point absolument crucial. Et nous sommes en train de préparer un livre blanc sur l'accompagnement des enseignants à partir de ces différentes manifestations, parce que donc, comme vous dites, c'est très important de se voir et de se rencontrer, mais comment capitaliser mieux à partir de toutes ces rencontres? Sur l'innovation et la recherche, et pour aller vite, je citerai deux choses. Le fait que, bien sûr, il y a les appels à projets dans le cadre d'investissements d'avenir, avec une part du numérique sous tous ses aspects. On peut constater que dans les projets IDEFI, donc autour de la formation, quasiment tous ont une dimension numérique. Et un certain nombre proposent vraiment des dispositifs de formation en réseau dans lesquels le numérique permet une nouvelle façon de procéder. Donc le numérique assez présent. Et puis nous pensons que la recherche peut amener des choses à nos réflexions à tous. Et donc nous avons entrepris une cartographie de la recherche en e-éducation qui recouvre un ensemble de champs disciplinaires. Qui vont des champs disciplinaires plus technologiques jusqu'aux champs de sciences humaines ou de sciences de l'éducation. On est en train d'établir cette carte. Là aussi, il y aura des sessions là-dessus pour essayer éventuellement de dégager des pistes nouvelles et surtout de faire en sorte que des gens de disciplines différentes puissent travailler ensemble sur ce champ qui est stratégique et en même temps qui n'est pas bien identifié. Enfin, nous savons qu'il n'est pas facile d'être acteur du numérique dans les établissements. Donc, nous nous demandons toujours comment valoriser les personnes qui travaillent là-dessus dans les établissements. Ça n'est pas facile, c'est aussi le rôle des établissements de le faire. Nous avons, vous le savez, lancé cette année le premier festival du film pédagogique. Du film universitaire pédagogique pour essayer de mettre en valeur et de repérer les créations des établissements en matière de ressources numériques audiovisuelles. Et il y a eu pas mal, il y a eu 140 projets qui ont été présentés. Il y aura une remise des prix demain soir. Et nous espérons continuer dans cette voie-là et faire quelque chose un peu tous les ans pour valoriser finalement ce que font les établissements dans ce domaine. Il me reste moi aussi à vous souhaiter de très bonnes journées pour le CUN. Je souhaite remercier beaucoup les organisateurs, tous ceux qui ont contribué à ces journées, à la fois à Paris, à Lyon, au niveau du presse. Et puis je remercie toutes les personnes qui sont là, qui se sont donc déplacées pour ce CUN, toutes celles qui ont contribué, avec une mention particulière pour les gens qui nous viennent de l'étranger et qui ont bien voulu nous apporter leur contribution et leur expérience. Donc, merci à tous et très bonne journée.
Merci beaucoup. Alors, plusieurs éléments pratiques. On se retrouve tout à l'heure à 11h pour la conférence sur les innovations pédagogiques et le numérique. Les hashcodes pour tweeter @CUIEN2012, hashcode plénière. Tout le monde a compris. Jean Doré, vous vouliez dire un mot ?
Oui, je voulais juste tirer un coup de chapeau à quelqu'un qui n'a pas été cité ce matin, parce que aux côtés de Laurent Flory, aux côtés de Jean-Pierre Berthet, aux côtés de Luc Mario, il y a Mocharaf. Mocharaf qui bosse sur ce projet de manière extraordinaire depuis au moins 2 ans. Et dites-vous une chose, c'est que si quelque chose se passe bien, c'est de sa faute. Voilà.
Ben merci, Maud, c'est elle qui m'a convié à animer ce colloque, donc je ne peux que la remercier également. Ben voilà. On va faire une pause café avant de se retrouver à 11h ici.